C'est une photo. Ce que vous voyez, c'est en 1948, en fait. Ça, c'est le cannabis qui se vend au marché, au souk. C'est-à-dire, en fait, on vient, on l'achète. Et ça, en fait, de l'autre côté, c'est les nouveaux circuits en fait, de trafic du cannabis au monde, en fait. Avant, aujourd'hui, en fait, on a changé. Avant, le cannabis marocain partait du Maroc vers le sud de l'Espagne, et le sud de l'Espagne, ça part directement à Paris. À Paris, il y a le stock, et après, ça s'est redistribué par la suite, en fait, dans le reste d'Europe. Aujourd'hui, avec les nouvelles zones de guerre, j'avais fait un article en fait sur ça en anglais, sur l'immigration, drogue et guerre, dans une revue allemande. Et en fait, ça a changé. C'est-à-dire, en fait, on part soit vers la Libye, et après ça remonte, soit on part vers Tobruk, en fait, en Égypte, et après, en fait, ça part vers la Grèce, et ça redescend par la suite, en fait, vers l'Europe. Le Pays-Bas, la France. Le Pays-Bas, c'est un marché qui est plus intéressant aujourd'hui, parce que les Hollandais produisent leur propre marijuana. Et il y a beaucoup de production clandestine aussi. Et du coup, en fait, c'est plus intéressant qu'on marche.
Ça marche. Bonjour. Ludovic Valadier, caisse des dépôts et consignations. Je ne travaille pas pour la DST. Vous répondez en fait un tout petit peu à la question, mais je voudrais la prolonger. En fait, je voulais savoir quelle était la place du Maroc au niveau international en termes de production et quelles étaient les zones peut-être concurrentes à la surface du sol et aussi les tendances, c'est-à-dire comment ça se déplace, quelle évolution. Et en regard de ça, donc, qui est finalement un commerce illicite, quelle était la part de la production qui pouvait être considéré à usage médicinal, notamment l'usage du THC pour toute la partie anesthésiant, etc., et dérivés opiacés. Et est-ce que, du coup, il pouvait y avoir éventuellement un commerce régulé à partir de cet usage médicinal?
Il y a un débat aujourd'hui sur la question de la légalisation du cannabis au Maroc. Le Maroc ne détient pas son pouvoir comme ça, parce que vous remarquez très simplement que l'injustice entre le Nord et le Sud est tellement flagrante que parfois les pays du Sud n'ont pas de souveraineté sur leurs décisions qui les concernent. C'est-à-dire, en fait, les Américains, quand ils veulent autoriser, en fait, marijuana, bah, ils le font. Les Marocains, quand s'ils veulent autoriser le cannabis qui est ancestral chez nous, bah, ils doivent aller chercher les Français pour avoir des appuis, les Américains, etc. C'est des pays du Sud, c'est-à-dire en fait, ils sont pas souverains dans leurs décisions, parce qu'ils ont signé des conventions. Et le Maroc a signé la convention de 67, c'est la convention unique contre la drogue, c'est-à-dire en fait, on a aligné toutes les drogues, elles sont toutes interdites. Ça d'une part. Alors, par contre, il y a un débat, il y a un vrai débat, mais c'est un débat politique. Voilà. Quand je dis politique, j'entends par là très stérile, quoi. C'est-à-dire, il n'y a rien. C'est juste pour faire un peu d'animation et faire intéresser les gens, quoi. Mais il n'y a rien de profondeur, de temps, en fait, qui peut se dégager de ce niveau-là. Sur le plan de Maroc, aujourd'hui, on parle du Maroc comme le premier producteur du cannabis au monde. Oui, c'est vrai. Jusque-là, c'est très vrai, mais c'est très partiellement vrai. Parce que le Maroc, c'est le seul pays, en fait, qui donne des statistiques. À part les statistiques, l'étude qui était faite en 2005 par l'ONUTC, Organisation internationale de lutte contre la drogue qui appartient aux Nations Unies, il y avait le Maroc lui-même fournit en fait ses propres statistiques sur les pas sur la production, mais sur les zones de production. C'est-à-dire en fait, on a baissé aujourd'hui en fait là, on est passé de 150 ou 160 000 hectares à 45 000, ce qui est énorme. Par contre, la production a triplé, parce qu'en fait, c'est des nouvelles variantes qui ont rentré aujourd'hui. Le produit, le kif marocain, en fait, la plante marocaine, pour un ton de kif donner 1 kg ou 800 grammes de cannabis, aujourd'hui, avec les nouvelles variétés en fait, qui rentrent, ça a triplé, en fait. Un ton de kif, ça donne 3 kg. Et du coup, en fait, la concurrence est extrêmement rude entre les trafiquants pour trouver un marché. Ça, c'est juste une partie de réponse. La deuxième, c'est qu'en fait, quand on dit le Maroc est le premier producteur, cela suppose qu'on a déjà fait des études sur d'autres pays, sauf qu'on n'a fait aucune étude sur d'autres pays. On ne sait pas du tout, en fait, combien de la production d'Afghanistan. On ne sait rien. On ne sait pas, en fait, combien de la production de Liban, par exemple, la Liban, qui est surtout, en fait, le Birka, en fait, la zone Birka qui nous en chite. On produit du cannabis, mais on ne connaît pas, en fait, la quantité non plus. Il n'y a pas d'étude. Pour l'Égypte aussi, en fait, la production du cannabis, en fait, a une consommation locale, mais on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est clair qu'aujourd'hui, le Maroc est le premier producteur au monde, parce qu'en fait, c'est le seul pays, en fait, qui coopère à ce niveau-là avec les institutions internationales et qui fournit des chiffres. Et ils leur disent, oui, voilà. Et les Européens ne font pas non plus de pression sur le Maroc pour une simple raison, c'est qu'en fait... Ce qui est bien et malheureux aussi pour l'Europe, c'est qu'en fait, la zone de production est en face d'Europe. Et c'est 15% de la population du Maroc. D'ailleurs, en fait, si vous leur interdisez, en fait, et qu'ils demandent pour créer, en fait, des alternatives économiques, ça demande des investissements colossaux. Et on n'a jamais fait des études approfondies, en fait, réellement sur ça. Et du coup, en fait, on préfère laisser le cannabis, la production, pour stopper l'immigration, parce que c'est une zone qui est très sensible à l'immigration. Vous leur retirez ça, ils partent. C'est-à-dire, en fait, entre migration et production du cannabis, on préfère, en fait, que ce soit, en fait, la production du cannabis qu'on contrôle, en fait, à travers les normes des CISI. Voilà. Ça, d'une part. Voilà. Après, en fait, ça, c'est ce sont les hommes de circuit, en fait, récents, qui datent de 2015, du cannabis. L'Espagne, en fait, maintenant on a moins... L'Espagne, en fait, le CISI en Espagne est passé de... attends, j'ai des chiffres ici. Oui. L'Espagne est passé de 600 tonnes de CISI par an à 350. C'est juste pour vous donner, en fait, une idée. Sur la chute, en fait, en termes de CISI, parce que le produit ne passe plus par l'Espagne. Sachant que, aussi en Espagne, c'est la Guardia Civil, en fait, travaille à fond. Moi, le dernier entretien que j'ai fait, en fait, avec un convoyeur en Zodiac, en fait, qui a ramené le cannabis vers le sud, l'Espagne, qui a arrêté, il me disait que c'était l'ambulance de l'hôpital qui venait décharger le cannabis à Costa del Mar. Il venait parce que il vient, il charge, il remet, en fait, la sonnette. Et au Maroc aussi, c'était des militaires qui n'aidaient pas, mais les militaires, en fait, ils surveillaient la route. Il y avait une grande coopération entre partout. C'est vraiment partout. Vous vous souvenez tous, en fait, de l'affaire de Marseille, le commissariat Nord, où c'était le commissaire jusqu'au dernier policier. Tout le monde était inculpé, 45 personnes. Et c'est juste une semaine après, la police française elle était en train de poursuivre un réseau de blanchiment d'argent à l'échelle de France et qu'ils avaient à peine 15% en fait des personnes qui sont dans le circuit. Et ben, il fallait, en fait, vite fait démanteler ce réseau-là pour montrer que la police française n'est pas corrompue. Elle est aussi efficace sur le terrain. Et vous vous souvenez tous de cette affaire, il y avait une députée vert qui était aussi dans le réseau de blanchiment d'argent. Il y avait une dizaine d'avocats, une dizaine de notaires et tout. Moi, je travaillais à ce moment-là avec des jeunes, des étudiants marocains qui étaient dans ce réseau-là. C'est des étudiants extrêmement brillants qui géraient ce fonds de blanchiment d'argent à l'échelle internationale, qui sont installés à Paris. Et voilà. Et c'était, en fait, c'est un réseau qui fonctionnait entre Casa, Paris, Genève, Tel Aviv. C'est très complexe. C'est pour ça, en fait, c'est de l'économie informelle, parce que quand on fait sortir du cannabis, on ne fait pas rentrer que de l'argent. C'est de la marchandise qui rentre sur différentes formes. C'est des sociétés créées à Dubaï, qui ramènent la marchandise de l'Inde, et ça fait une circulation. Les Chinois, ils ont leur part dans le marché aussi. Et du coup, en fait, c'est un réseau extrêmement complexe à ce niveau-là. Oui, il y a des retombées sur l'économie marocaine. Je pense que sur l'économie mondiale, il y a des retombées, pas que le Maroc.
Bonjour, je suis... Oui, Mathias Cadou, je suis directeur d'un centre de ressources de la politique de la ville en Bretagne, Pays de la Loire. Alors, il y a aussi une immigration marocaine qui n'est pas aussi forte que sur le sud de la France, mais en tout cas dans les régions de l'Ouest, c'est une des premières communautés. J'ai un petit malaise en fait. Alors, c'est pas parce que j'ai pris un produit avant de venir, par un télément, ça va bien. Mais du coup, à vous écouter, je me disais, mais combien de personnes ça concerne en fait dans le RIF, cette production, ce trafic? Parce que je voudrais pas qu'on reparte avec l'idée que dans le RIF, il n'y aurait que des producteurs et des vendeurs et qu'il y a vraiment une très forte mafia marocaine qui serait partout. Est-ce que vous avez une vision un peu en termes de chiffres, parce que vous parlez d'économie un peu familiale, de combien de personnes ça peut représenter au regard des chiffres que vous annoncez sur le tonnage de production? C'est quelque chose qui est un élément, on va dire, vraiment très fort, ou ça reste quand même quelque chose d'une économie dite souterraine, ou en tout cas... voilà, juste cette question de est-ce que c'est vraiment quelque chose de très fort ou quelque chose d'un peu, faible. Alors, pour l'anecdote, moi je suis marié avec une femme du RIF, et j'ai pas l'impression que dans l'ensemble de nos familles, amis, on soit dans ce cadre-là, donc voilà, j'ai besoin de vous rassurer en fait.
Vous ne savez rien, il faut aller chercher. Et si les trafiquants, tant mieux pour vous, je ne sais pas. Oui, moi aussi je suis rifain. Mais je suis rifain et j'apprends chaque jour des choses de. Parce que c'est juste pour dire en fait qu'on découvre, il n'y a pas que ça. Moi, j'étais en train de lire, en fait, je suis en train de finir un ouvrage sur le titre, en fait, provisoire, c'est « Au fondement de la marge, ce que le RIF nous apprend ». Ce qui m'avait provoqué, en fait, une fois, c'était des articles écrits par Pierre Vernemin, en fait, un historien parisien, où il était dans un délire absolu, après suite aux attentats de Bruxelles, où il expliquait, en fait, la relation entre les RIFains torturés, expulsés, violentés par le roi Hassan II, et les attentats de Bruxelles, en disant que les Rifains sont comme ça, c'est un couple lignagère extrêmement fermé sur lui-même, avec une appartenance parentale, violent, etc. Et que ça explique pour lui, en fait, les attentats faits par les Marocains d'origine Rifain partout en Europe. Sauf qu'il n'y avait rien de Rifain, en fait, dans ce truc-là. Mais bon, ça, c'était le délire d'un historien. Qui voulait saisir l'occasion d'un mouvement malheureux pour livrer des interviews un peu à gauche et à droite. Et j'avais en fait fait un truc, en fait le site qui est géré par l'ancien Alain Guesch, l'ancien directeur de Monde Diplomatique. Et on disait comme ça, en fait, des copains qui me disaient que les Rifains ne sont que des terroristes et des trafiquants de drogue. Bon, je réponds juste en une partie. Voilà, c'est pour ça que je dis, en fait, l'économie du cannabis, je ne peux pas avoir peur, hein, c'est une économie. Enfin, je parle, d'accord. Quand je dis une économie, c'est-à-dire quand vous prenez, en fait, ce qu'on appelle dans le Nord un business. C'est-à-dire, un business, c'est un... En fait, il y a deux termes. Business, en fait, c'est un terme qu'on utilise au Maroc, mais qui a deux sens. Il y a le business du Nord et il y a le business du Centre. Le business du reste du Maroc, c'est un petit trafiquant en détail. Celui qui vend, en fait, des petits morceaux de shit et quand il se fait arrêter, prend 10 ans de prison. Parce qu'ils vendent des petits. Et quand vous en renvoyez 2 tonnes, 20 tonnes en Europe, bah, vous prenez 5 ans. Alors, c'est mieux de renvoyer 5-6 tonnes pour avoir moins de prison, quoi. Et un business ici, c'est un commerçant, c'est un entrepreneur du cannabis. Et vous prenez quelqu'un qui n'a jamais fait d'école, et le mec il vous gère un réseau, vous avec votre bac plus 25, vous êtes incapable de faire le quart de ce qu'il fait. Ou moi-même, d'accord. C'est pour ça, en fait, j'ai aucun jugement de valeur par rapport à ces gens, parce que c'est des mecs qui viennent de la campagne, qui ne savent même pas marcher, qui ne savent même pas parler. Et petit à petit, en fait, dans le RIF, on a créé des petites zones, des petits centres urbains de transition, qui ne sont de centres urbains que le nom. Quand un producteur, en fait, cumule suffisamment d'argent, il se déplace vers ce petit centre. Il commence à s'habiller en costume, à marcher dans la rue, il ne sait pas marcher dans la rue, à parler aux gens. À parler aux gendarmes, à ne pas avoir peur, à acheter les autorités. Et une fois il a accumulé ce charisme-là, de savoir-faire, dans le sens de Goffman, en fait, de gérer son apparence sociale, il s'installe dans une grande ville, Contangé, et il devient millionnaire. D'accord ? Avec des gens, des grandes familles ici à Tanger, il vient et les écrase. C'est pour ça que j'ai aucun jugement de valeur par rapport à ces gens-là, parce que c'est un métier, c'est un travail qui est illégal, certes, mais c'est une économie. Économie à part entière, mondiale, parallèle. C'est-à-dire, en fait, ce que. On n'a jamais parlé, en fait, de l'économie des armes. C'est une économie qui tue plus que la drogue. Pourquoi ? Parce que c'est fait par l'État. C'est les États qui gèrent ça, avec les groupes mafieux. C'est comme une fois, en fait, quand j'ai dit à un Italien, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas d'attentat en Italie ? Je faisais une enquête à Naples, je faisais un entretien avec le procureur de Naples. Et il me dit, parce que ce sont les mafias italiens qui vendent les armes et qui permettent, en fait, la circulation des armes en Europe. Et c'est eux qui garantissent, en fait, la sécurité. C'est-à-dire, on attaque les mafias, en même temps, c'est très impliqué l'un dans l'autre. C'est pas aussi simple. C'est-à-dire, l'économie du cannabis au Maroc, dans le Nord, ça représente 80 000 personnes qui travaillent dans cette activité économique. C'est probablement la Loire. D'accord ? Je sais pas combien de personnes dans, je sais pas, Tours, par exemple, si vous prenez Tours, il y a quoi ? Il y a 80 000 ? Un peu plus ? Non. En tout cas, c'est 80 000 personnes qui travaillent dans cette économie. Ça, c'est quand je dis travail, c'est-à-dire d'une manière directe. Non. C'est une économie concentrée dans le Rif central, essentiellement. Les gens, quand vous faites des enquêtes, quand vous faites des enquêtes, vous posez la question aux gens, qu'est-ce que vous faites ? Ils disent, je plante l'herbe. Il n'a aucune honte, ni honte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une économie. Pour lui, en fait, c'est une entrée d'argent, c'est une économie qui lui permet de ramener de l'argent. Ceci dit que le Rif, c'est une région qui est extrêmement pauvre. Hein. Il y a, à part l'immigration, il n'y a rien. On ne peut pas développer une économie agricole en dehors du cannabis. Parce que les gens ne... Il n'y a pas de... En fait, le terrain le plus grand, c'est genre deux fois cette salle. Ça, c'est un terrain énorme. C'est deux fois cette salle. Ah, deux fois cette salle, ça ne fait pas nourrir si vous ne faites pas de cannabis. Aujourd'hui, par exemple, il y a certains jeunes qui ont passé, en fait, aux céréales. Parce que, en fait, quand je leur posais la question, ils me disent, en fait, le prix de... Bah, c'est pas le céréales, c'est pas intéressant. Mais le prix, en fait, de la paille, aujourd'hui, un kilo de paille est beaucoup plus cher qu'un kilo de kiff. Et du coup, en fait, ils ont changé d'activité. En attendant, en fait, que le marché se stabilise en termes du kiff, et après pour revenir par la suite. C'est des calculateurs. Ils font pas ça pour faire le kiff. C'est juste parce que il y a des circuits beaucoup plus faciles, il y a des réseaux, etc. Sans avoir un jugement de valeur par rapport à cette population. Moi, je dis oui, les gens produisent le kiff. Ils produisent le kiff, quoi. Je pense de la même manière. Quand moi je leur parle, ils me disent, on produit bien dans le classe le vin. Il n'y a personne qui vient me dire, en fait, ouais, le vin, et pourtant, le vin tue plus que le cannabis. Il n'y a personne qui vient me casser la tête avec le vin, quoi. Et en plus, il vous dit, bon, en plus, le Coran interdit le vin, quoi. Non, jamais dû dans le Coran, le cannabis est interdit, quoi. C'est son argument, et c'est solide. D'accord. Voilà. Merci.
J'ai une dernière question.
Oui, en fait, oui, bien sûr. Alors, on va faire ceux qui ont des questions, on va les prendre en. On va faire la dernière salle de questions pour pouvoir se garder un petit peu de temps quand même pour la pause. Je t'en prie.
Oui, bonjour. Xavier Auclair, EDF. Pardon, c'est vrai. Marion Alfaro, je travaille dans un port et j'avais une question sur les circuits logistiques de ce trafic. Et ma deuxième question. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est une économie, certes, mais c'est pas n'importe laquelle. Est-ce qu'elle s'accompagne de violences, d'implications sociales difficiles ? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des à côté violents de ce réseau-là ? Et est-ce qu'il y a des liens avec des trafics, d'autres trafics illégaux ? Je pense à la prostitution, des armes, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des liens avec ces trafics-là ?
Moi, Mélie de Castex, Grand Paris Aménagement.
Je voulais savoir ce que ça aurait comme impact si en France on légalise le cannabis, qu'est-ce que ça fait comme selon vous?
Bonjour, Claire-Marie Meignet, SNCF Réseau. Ça rejoint un peu cette question, je voulais votre avis, parce que dans les présidentielles, la campagne actuelle, on parle de dépénalisation ou de légalisation. Est-ce que c'est justement qu'une mesure, comme on entend souvent, qui vise à cibler un certain type d'électorat, ou est-ce qu'ils ont la connaissance de cette économie informelle et la volonté de faire quelque chose ?
Bonjour Sarah Brick, je travaille au Sénat. Nous avons eu des présentations les jours passés où on nous a expliqué que l'extension de la culture du kiff détruisait la biodiversité du nord du Maroc et j'étais surprise de ne rien entendre à ce sujet dans vos présentations.
Bonjour, Frédéric Morin, Gérard Tégaz. Moi, j'avais, comme dirait mon collègue Xavier, deux questions. La première, c'est, alors, depuis 2019, on a beaucoup parlé de stratégie de développement économique du nord du Maroc, et puis, on va dire, d'occupation du territoire et de construction de la ville. Donc, ma double question était portée sur ces deux sujets. La première, c'est effectivement, est-ce que l'économie du cannabis... Est-ce que d'une certaine façon, elle entre en concurrence ou est-ce qu'elle trouve sa place dans la stratégie de développement économique du territoire? Puis la deuxième question, c'est est-ce que cette économie aussi a une contribution à l'occupation de l'espace et à la construction notamment des villes de danger d'étouffement de façon licite ou illicite par des systèmes de blanchiment ou aussi une contribution au mitage du territoire?
Bonjour, Michel Garcia, préfecture des Yvelines. Vous avez évoqué, bien sûr, la dimension historique, la dimension économique. Par contre, j'aimerais connaître l'impact sur la santé publique. La santé publique sur le territoire. Bonjour, Victor Gaubon, Société de premier conseil. Moi j'ai une question, c'est plutôt d'ordre historique. Je voulais savoir si, comme au Maroc, enfin, si vous avez la réponse, si comme au Maroc, l'État a eu sa part dans l'économie du cannabis, dans d'autres pays, et si c'est le cas aussi pour d'autres drogues, comme l'opium en Afghanistan, par exemple. Opium transformé en héroïne.
Je commence par la dernière question. La part de l'État directement, mais bon, il s'agit d'une économie informelle qui finit toujours par trouver des petits ruisseaux à un moment donné pour rentrer et se faire circuler en fait dans l'économie normale. Et du coup, oui, à un moment donné, en fait, tous les États tirent un bénéfice de ça. Je vous donne juste l'exemple, par exemple, des casinos aux États-Unis, à Chicago, par exemple, ils servent essentiellement à ça. Ce sont un moyen de blanchiment d'argent. C'est-à-dire, en fait, c'est l'argent de jeu, en fait. Quand vous rentrez avec 100 000 euros, en fait, pour jouer au casino, il y a personne qui vous dit, en fait, vous l'avez ramené d'où, quoi. Vous jouez. Alors, vous partez à Nice, vous faites ça, quoi. Il n'y a personne. Mais les casinos servent essentiellement à ça. Oui, ça finit en fait à un moment donné par ça. L'État n'a pas de production à elle. On n'a pas l'État narcotrafiquant. C'est pas un État narcotrafiquant dans le sens où il n'y a pas des groupes mafieux organisés, etc., qui luttent contre le territoire. L'État régule en fait d'une manière directe ce genre de conflit, en fait, pour ne pas justement, en fait, avec des campagnes d'assainissement, ce qu'on appelle des campagnes d'assainissement, c'est l'arrestation des grands barons dans le Nord, de temps en temps, c'est tous les 10 ans à peu près, 5, 6 ans, 10 ans, il y a l'arrestation des grands barons, parce qu'en fait, le but, c'est de ne... Parce qu'il y a une différence entre mafia et cartel. Le cartel, c'est celui qui domine. Le mafia, c'est plusieurs spécialisés dans plusieurs activités. Un cartel, c'est celui, en fait, qui domine toutes les activités. il fait la production, la commercialisation, il fait tout. Et au Maroc, il n'y a pas ça, parce que il y a un cartel arrive qu'en fait, il y a une saturation en termes d'élite. C'est-à-dire, en fait, les grands trafiquants, ils sont là, ils ne bougent pas. Et ils dominent le marché. Ils deviennent comme des... comme un poisson d'un... un poulpe. C'est ça ? Voilà, comme un poulpe. Voilà. Avec pieuvre, merci. Comme un pieuvre, en fait, qui a un peu les pieds partout. Et l'État, en fait, il savait que dans une région marginalisée comme le Nord, c'est risqué de la laisser vide. Et du coup, il y avait une intervention directe à travers une gestion politique. Pour la santé publique, ça, c'est un grand problème au Maroc. C'est-à-dire, en fait, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas très nombreux à travailler sur la question du cannabis. On n'est pas comme... On a une antenne de FDT, en fait, comme en France, mais qui ne fonctionne pas au Maroc. Et c'est malheureux qu'on ne fait pas des statistiques, des études sur la consommation. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, je suis incapable, on est deux à travailler sur la question du cannabis au Maroc. Vraiment, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant, depuis 2004, ça fait 13 ans que je travaille sur la thématique, ou 12 ans, et j'ai jamais vu, je fais des terrains tout le temps. C'est-à-dire, en fait, chaque année, je pars et tout, j'ai des contacts sur place. Et on n'a pas des statistiques sur le nombre des consommateurs du cannabis au Maroc. Et pourtant, on sait qu'il y a le Maroc, c'est un grand consommateur de son propre produit. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire pas que le ministère de la Santé ne fait rien. On a quelque chose d'extrêmement formidable au Maroc, que même en France, on n'a pas, malheureusement. Et que je pense que la France peut apprendre beaucoup de choses de ça, du Maroc. Dans le Nord, en fait, à Tétouan, à Tanger, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une grande consommation de l'héroïne, en fait, la grande forme. Et du coup, il y a deux associations financées directement par le ministère de la Santé et qui gèrent la consommation des junkies. On leur donne en fait les seringues. Oui, mais vraiment, une véritable prise en charge. Et il y a une liste, il y a des médecins, des psychiatres. Et pour ceux qui veulent en fait quitter ce milieu-là, on leur fait en fait une insertion professionnelle avec une prise en charge, mais à fond, que ce soit sur le plan social. Et franchement, pour ceux qui travaillent dans le milieu, je vous invite vivement à visiter en fait l'association d'ailleurs, ils se retrouvent deux, il y a une à Tanger, une à Tétouan. C'est le travail qu'ils font, c'est juste magnifique. Ça se fait dans aucun pays. C'est-à-dire, en fait, en tout cas, c'est une prise en conscience très vite en fait des jeunes. Et ça, c'est au Maroc, si ça change, c'est parce qu'il y a des acteurs sociaux, quoi. C'est pas politique. Il y a une société civile qui a démarré il y a quelques années, et c'est elle qui porte le vrai changement. Que ce soit sur le plan migration, que ce soit sur ce plan-là. Et là, ça fonctionne très bien, vraiment. Est-ce qu'il y a des violences dans cette économie? Oui, comme toute forme d'économie, il y a certaines violences. Je pense que dans une bourse à New York ou à Paris, il y a aussi une violence entre des grandes entreprises, mais une violence symbolique. La seule différence, c'est qu'on entend de temps en temps des violences. Moi, j'ai entendu plein d'histoires, des règlements de compte. Mais ce sont souvent des règlements de compte faits par des groupes mafieux européens qui interviennent directement sur le sol marocain. Ça existe. Hein, c'est-à-dire, en fait, mais ça se fait moins parce que le Maroc contrôle très bien ça. Et du coup, en fait, moi, la plupart des trafiquants que j'ai rencontrés qui ont joué mal avec des réseaux italiens ou espagnols ou français, ils vont jamais sortir des frontières marocaines parce qu'ils savent très bien, en fait, ça sera la fin pour eux, quoi. Dans le sud de l'Espagne, vous arrivez, il y a beaucoup de règlements de compte, oui, qui est lié en fait à cette activité. Il y a beaucoup de victimes marocaines. Voilà, aussi dans ça, bon, c'est une économie, oui, avec une certaine violence. Quand on arrive à une échelle très élevée, oui. Moi, j'ai travaillé sur la carrière des jeunes trafiquants qui partent en Europe dans des bateaux de cannabis. En fait, vous pouvez partir à deux moyens. Soit vous payez de l'argent, soit vous chargez du cannabis avec le transporteur, et quand vous arrivez, vous déchargez, vous partez. En votant 500 euros. Alors, il y a plusieurs gens qui viennent issus des villages producteurs, qui n'ont pas de clients, etc., qui sont, parce qu'un grand baron dans leur village, il a tous les clients, eux, ils partent dans ces bateaux-là et commencent à travailler dans le milieu des vendeurs du cannabis au petit détail. Ils font de la prison, de la casse-prison, c'est extrêmement important pour un trafiquant. Il a fait de la prison, il a la parole. C'est pas la même image, en fait. De point de vue sociologique, anthropologique, vous voyez juste quelqu'un qui a fait de la prison. Mais dans son milieu économique, c'est comme si vous sortez de l'ENA. Vous avez fait de la prison seul, vous avez dénoncé personne, vous êtes un homme. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important dans le milieu. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas le lire avec le sens commun et les jugements de valeur qu'on a, nous, par rapport à une activité. Il faut comprendre la dynamique qui existe à l'intérieur, en fait, qui n'est pas la nôtre. C'est une dynamique complètement différente. Et d'ailleurs, nous, on ne fait pas le même. Même les policiers font ça, attention. Parce qu'un policier qui fait arrêter un jeune, je ne sais pas, avec un joint, et il commence à lui faire la morale, même le ramener au commissariat, etc. Quand il arrête, en fait, je ne sais pas, un trader qui travaille pour la Bourse de Paris avec 20 grammes de cocaïne, là, il le traite différemment, quoi. Et c'est important. Ce n'est pas la drogue qui définit la personne, c'est son statut social. Qui fume quoi, quand et comment. C'est ça qui définit la drogue. C'est tout. C'est-à-dire, si, je ne sais pas moi, si vous êtes arabe et vous fumez ça, vous avez un. Si vous êtes noir et vous fumez, si vous êtes blanc et vous fumez, si vous êtes après, je ne sais pas, chef d'entreprise et vous fumez, chacun est dans une case différente en fait. Et ce sont des jugements, mais qui fonctionnent socialement. C'est-à-dire, aujourd'hui, au niveau de la sociologie de la drogue, on ne travaille plus sur la drogue elle-même, on travaille sur celui qui la consomme, qui va la définir. Et c'est complètement différent. Impact sur le débat, parce que c'est deux questions un peu similaires, le débat sur la question de la légalisation en France, je pense que les candidats en France, pour ça, déjà sur des questions, des vraies questions économiques, ils sont à côté de la plaque, alors par rapport à ça, on laisse tomber. Je pense, l'impact, ça va être, pour les États en soi, les Hollandais, par exemple, quand on voit les Hollandais, la Hollande fait rentrer une grande partie de taxes. Je vous raconte juste l'exemple. Ça va beaucoup vous faire à la fois marrer et réfléchir en même temps. Le premier trafiquant qui a introduit en fait le coffee shop au Maroc, c'est un Maroc. C'est un rifa, pour rester. C'est un entrepreneur, vous voyez ? Ça, il a compris. Et quand il a déclaré les impôts, à un moment donné, en fait, on le descend avec un taux d'impôt extravagant. Et il a dit, mais c'est n'importe quoi. J'ai 15% que je paye de la corruption pour la circulation de produits. Moi, je ramène le cannabis du Maroc. Et pour le ramener du Maroc aux Pays-Bas, je dois payer les gendarmes et les policiers et les militaires au Maroc. Je dois payer la guardia civile en Espagne, les policiers en France, le transporteur pour arriver chez nous. D'accord, ça représente 15% d'investissement. Il a porté plainte contre l'État hollandais, il a gagné. D'accord. Les Hollandais sont pragmatiques. Ils ont compris en fait que pour contrôler les réseaux mafieux qui se développent dans un pays comme le Pays-Bas, et pour aussi avoir une vision de la politique publique, on a les Américains, c'est le gros pays au monde qui fait en fait qui a une punition le plus radicale au monde en termes de la consommation de la drogue. Et c'est un échec depuis 60 ans, on le voit. C'est-à-dire en fait l'éradication, l'interdiction absolue, tout, c'est un échec en soi. C'est clair que les politiciens, les acteurs, etc., ils doivent réfléchir sur ça. Et du coup, il y a toujours des retombées en fait sur les caisses d'État. Vous avez un produit, au lieu qu'il circule, en fait. Et ce que vous faites, c'est que vous régulez le marché. Moi, d'accord, qu'est-ce que c'est pour devenir un fumeur du cannabis? C'est pas juste, en fait, aller avec un copain et fumer. C'est tout un processus, en fait. On a probablement tous fumé du cannabis ici, et probablement il y a un ou deux qui fument encore, mais le reste, je pense pas qu'on fume du cannabis. Parce qu'on n'est pas passé par le processus qui finit pour devenir, en fait, de rentrer dans l'addiction du cannabis. C'est-à-dire, en fait, il faut pas juste fumer. Fumer, c'est un acte en soi. Tout le monde peut fumer du cannabis. Mais d'abord, il faut savoir rouler du cannabis. C'est un savoir-faire. C'est-à-dire, si vous ne savez pas rouler votre propre cannabis, vous ne pouvez pas être un fumeur du cannabis. D'accord ? C'est comme si vous ne savez pas ouvrir une bouteille de vin et vous voulez boire du vin. Si vous êtes seul, vous n'allez pas boire. Bah, c'est pareil pour un fumeur du cannabis. Il doit apprendre à rouler, il doit apprendre à choisir la bancalité, il doit apprendre à prendre le risque, à aller chercher le fournisseur. C'est un risque. Au moment où vous arrivez chez le fournisseur, les policiers débarquent. D'accord ? Et vous prenez 3 mois de tôle pour rien du tout. C'est juste c'est un consommateur. C'est un risque. D'accord ? C'est-à-dire, en fait, pour arriver à l'étape de consommateur, ce sont plusieurs étapes cumulées qui vous permettent, en fait, de créer cette identité de consommateur du cannabis. Bah, quand vous créez, en fait, une économie formelle, devant une économie informelle, bah, vous laissez le choix, en fait, au consommateur de choisir, en fait, par rapport, pas juste au prix, mais au risque aussi. Si je viens ici à l'informel, bah, je risque beaucoup. Je risque mon image, je risque ceci, cela. Par contre, si je vais juste fumer, en fait, dans un coffee shop, lui, il paye les impôts, je paye plus cher, mais je suis bien avec mes copains, on rigole, il n'y a pas de problème. Et du coup, en fait, à un moment donné, il faut commencer à réduire. La légalisation du cannabis n'a pas comme but, en fait, d'annuler l'informel. C'est juste le réduire, parce qu'on ne pourra jamais réduire l'informel. C'est juste le réduire. Réduire sa marge de manœuvre, c'est tout. Et on contrôle son territoire, on rentre dans son territoire, à lui. On ne le laisse pas seul. On agit avec lui. Et on va contrôler les produits, on va... Voilà. Et on va apprendre aussi... Hein, je sais que vous consommez, je vais vous parler en fait de la consommation, comment la réguler, combien consommer par jour, comment consommer. Si vous voulez en fait arrêter, je vais vous aider. Or, quand vous êtes dans la clandestinité en fait, bah, vous cachez en fait votre consommation, vous êtes seul. C'est ça en fait le risque, c'est-à-dire ça a fait retomber sur la question de santé publique. C'est-à-dire en fait la légalisation a plusieurs avantages en fait, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan de la santé. C'est ça en fait l'avantage. Je pense qu'en France c'est plutôt en fait les réseaux de la légalisation du cannabis sont importants aujourd'hui. Le cannabis, c'est le premier produit consommé en France. C'est le premier produit consommé très jeune, c'est-à-dire, en fait, les statistiques qu'on a aujourd'hui en France, un enfant sur 3 ou 4 qui a 13 ans a déjà fumé du cannabis. Quand je dis fumé, c'est-à-dire, en fait, il a tiré avec ses copains, quoi. Pas fumé, mais il a... Voilà. Et du coup, en fait, oui, il faut aujourd'hui, en fait, ouvrir ce débat, mais il faut des acteurs politiques charismatique que je pense que qui manque en France, c'est ça. La diversité du Maroc, la biodiversité, j'ai pas parlé de ça pour une simple raison, c'est qu'en fait je pouvais pas parler de plein de choses. Oui, effectivement, il y a un vrai problème de la biodiversité qui finira en fait par arrêter la production du cannabis un jour ou un autre au Maroc. L'État ne contrôle pas malheureusement ce territoire pour ce 13 ans-là. Aujourd'hui, vous avez plein de sociétés qui cherchent les puits en fait pour l'eau, pour arroser le cannabis, parce qu'il y a deux types de cannabis. Il y a le bord, il y a celui en fait d'arrosage en fait naturel et l'autre en fait d'arrosage des puits. Et du coup, en fait, on cherche. Et on a creusé un peu partout dans des roches. Une fois, en fait, ça m'est arrivé de faire un terrain comme ça. Je suis parti au bout du deuxième jour parce que je n'ai pas pu, en fait, rester. C'était malheureux de voir ce qu'ils font. Et c'est souvent les grands business qui ont beaucoup de moyens qui font ça, qui ramènent des sociétés pour chercher un peu l'eau. Et oui, ils sont en train de détruire complètement, en fait, la région, en fait, en termes de la biodiversité. Ceci dit aussi qu'il y a une monoculture de cannabis qui fait que voilà, c'est la guerre pour le territoire. Et celui qui a l'eau, il a le pouvoir. Ça se passe de cette manière. Est-ce que ça a retombé sur l'économie du cannabis? Est-ce que ça a retombé sur le Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure? Oui. Ça a des retombées directes sur indirectes sur l'économie marocaine. Je vous donne juste l'exemple, c'est qu'en 2008, tout à l'heure j'ai donné l'exemple de transfert d'argent, mais en 2008, 2009, 2010, en fait, aux trois ans en fait, de la guerre, de la crise économique, et on a vu des pays carrément faire faillite, comme l'Espagne. le Maroc réexistait en fait. Et ça, c'est la particularité des pays en voie de développement. C'est que la France a une obsession par rapport à ce qu'on appelle le noir. Le travail en noir. Ils aiment pas, même le noir. Hein, tout ce qui est noir, c'est vraiment. Et du coup, en fait, par contre, vous avez une crise économique. Bah, quand, dans un système économique complètement régulier, vous ressentez la crise très facilement. Et ça se ressent essentiellement dans le secteur des immobiliers. Au Maroc, en fait, on était en pleine crise et on avait suffisamment de liquidités en fait, qui circulaient dans le marché, qu'en fait, la crise, ça ne se ressent pas. Parce qu'il y a de la liquidité qui circule sur le marché. Aujourd'hui, au Maroc, vous ramenez 101 millions d'euros dans une banque, vous la déposez, il ne va pas vous dire que vous l'avez ramené debout. En France, vous ramenez peut-être... Moi, j'ai eu un virement de Canada en France de 2700 euros. La nana, il m'appelle au Maroc pour me dire « Mais ça vient de où ? Et comment vous avez fait ?» Je dis « Madame, c'est 2700 $, c'est 1600 euros, quoi. Mais non, mais juste à savoir l'origine, la provenance et tout. » Au Maroc, vous déposez 1 million d'euros, le mec, c'est le directeur de banque qui va venir négocier avec vous l'intérêt, quoi. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent? Et du coup, ça permet à l'économie toujours de résister à ce genre de chocs. C'est-à-dire qu'en fait, à force de réguler le marché à 100%, vous laissez en fait réduisez la marge de manœuvre. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit en fait que dans le secteur immobilier, au moment où il y avait la crise, les Marocains allaient acheter en Espagne. Ils n'achètent pas juste au Maroc. Ils allaient acheter dans le sud de l'Espagne pour avoir le titre de séjour. Parce qu'en fait, le droit français, espagnol, quand vous achetez un titre, vous avez le droit à la carte de séjour, résidentia. Et du coup, en fait, les Marocains, ils n'achètent pas juste au Maroc. Ils vont dans le sud de l'Espagne, ils achètent des appartements aussi. Parce qu'il y a de la liquidité. Ça circule. Et c'est ça, en fait, c'est en termes d'espace, ça permet, en fait, comme je disais tout à l'heure, ça permet de récupérer, en fait, d'urbaniser des espaces ruraux. Parce qu'en fait, cet argent a besoin d'espace pour investir dans le domaine de l'immobilier. Et du coup, on intègre de plus en plus des espaces ruraux. Si vous avez fait le tour de Tanger, vous êtes parti en fait dans le Msnana, vers la zone et tout. Moi, je connaissais encore en 2001 cette région, c'était la campagne. Il n'y avait rien. On sentait l'odeur des vaches à 10 km. Il n'y avait rien. Et en fait, l'argent avait besoin de conquérir de l'espace pour réinvestir de l'argent liquide qui circule dans le marché. Et l'État ne peut pas se permettre en fait, de laisser cet argent sans être circulé. Ça constitue, là par contre, ça peut constituer en fait, constitue plutôt un danger pour l'État. Et en fait, il ne faut pas laisser la concentration d'argent dans un groupe. Il faut que ça circule. Et c'est ça qui... Moi, je me souviens, juste pour finir là-dessus, je me souviens de directeur, M. Jawahiri, le directeur de la Banque du Maroc, en 2009-2010, il disait en fait que la réserve nationale de devises ne résistera pas plus de 3 mois, et qu'en fait, la réserve, c'est hyper intéressant, la réserve de la monnaie nationale, on a une réserve de 6 mois. Et on est bloqué parce qu'on n'a pas envie d'imprimer notre billet pour ne pas rentrer dans l'inflation. On n'a pas imprimé notre billet. 2 mois après, on avait 1 an et demi de réserve de liquidité, de monnaie nationale, et 8 mois de devises. Là, va comprendre. Là, ça vient d'où ? C'est pas tombé du ciel. Hein. C'est tout un réseau en fait qui permet de faire circuler cet argent pour qu'il rentre à la fin dans les banques. Et c'est ce que les Américains reprochent au Maroc en fait, en disant vous faites beaucoup de choses en fait dans le cadre de blanchiment d'argent, mais le système bancaire reste encore. Et les Marocains, ils disent oui, mais on ne peut pas serrer, visser tout, parce que cet argent il va aller où après? On est producteur du cannabis. Si le Maroc récupère juste 6 milliards de dollars par an, c'est le budget d'un pays, un petit pays d'Afrique centrale. Et vous avez, cet argent a besoin de circuler dans plein d'activités économiques. Il ne peut pas rester bloqué comme ça. C'est-à-dire même tous les systèmes, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai des copains qui sont des experts comptables à Paris, et qui me filent des infos de temps en temps, ils savent par exemple les projets de blanchiment d'argent quand, avec les clients. Ils me disent par exemple tel projet. Bon, eux-mêmes, quand un patron il vient, ils leur disent qu'est-ce que je fais avec cet argent, ils lui conseillent en fait une activité très légale qui lui permet en fait d'investir une grosse somme d'argent. Et quand en fait l'État même commence à bien contrôler, trop rien. Non. Et parmi eux, c'est les bureaux tabac. Et vous avez trois bureaux tabac, je finis. Bureau tabac, la pélagerie et pizzerie.
Merci.